Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Et cette semaine, il y a 6 nouveautés sur les écrans Manceau. The Fall Guy, Le Tableau Volé, Petite Main, Une Affaire de Principe, Un Petit Truc en Plus, Borderline, Jusqu'au Bout du Monde. Tous ces films-là, on les a vus, mais on n'a pas vu par contre les La Fleur de Bourouti, État Limite et Les Cartes du Mal. Eh bien, on va commencer notre semaine cinématographique avec de la musique, comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, on a été chercher des titres, beaucoup de titres dans le film The Fall Guy. On va commencer par un titre que Pierre connaît forcément, mais peut-être pas cette version-là. Allez, hop, c'est parti. Sur Radio Alpa, 7.3 FM. I wanna give it all to you. In the darkness. There's so much I wanna do. And tonight I wanna lay it at your feet. Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me.
I wanna do. I would.
was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't give it all to you, baby. Can you give it all to me?
Eh bien, I was made for loving you, mais c'est la version de Youngblood et non pas la version de Kiss que l'on entend dans le film The Fall Guy. Eh bien, justement, c'est l'occasion d'en parler, ce film The Fall Guy. On peut le voir au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Il y a très peu de séances en VO. Moi, je ne l'ai pas vu en VO parce que c'était très compliqué de le voir en VO. Mais il y en a quand même quelques-unes, dans tous les cas, au Pathé Quinconce, au Colisée, j'ai pas vraiment vérifié. C'est un film de David Leitch, réalisateur, acteur, producteur américain en 75. Il est aussi connu comme étant un cascadeur. Il a réalisé, ou plutôt co-réalisé en 2014, John Wick avec Chad Stahelski. Ça, c'est la co-réalisation, bien entendu. John Wick, c'est avec Keanu Reeves, bien entendu. 2017, Atomic Blonde avec Charlize Theron et James McAvoy. 2020, directement en VOD, Once Upon Deadpool avec Ryan Reynolds. Je sais pas ce que c'est. C'était parce que Deadpool, c'est en général les films sont sortis. Il y en a un qui d'ailleurs qui doit sortir en juillet. 2018, Deadpool 2, dans la preuve avec Ryan Reynolds et Josh Brolin. 2019, Fast and Furious Hobbs and Shaw avec Dwayne Johnson et Jason Statham. Et puis 2022, Bullet Train avec Brad Pitt. Donc c'est un spécialiste vraiment du film d'action, hein, ce David Leitch. Allez Pierre, à nous.
Durée 2h05 avec Ryan Gosling, Emily Blunt et Aaron Taylor-Johnson. The Fall Guy, c'est l'histoire d'un cascadeur. Et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeté par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut. Pour le plus grand plaisir du public, après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ? La revue de presse, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpeche, sans doute le film le plus cool, le plus amusant et le plus festif de ce printemps. Ouest France avec Philippe Lemoine, un blockbuster réjouissant, inspiré de la série L'homme qui tombe à pic. L'Obs avec Nicolas Scheller, du fun sous stéroïdes qui confirme le virage comique et décomplexé pris par Ryan Gosling avec Barbie. Il fait le film. Mariade avec Olivier De Bruyne, les supporters de Ryan Gosling sont convoqués dans les multiplexes pour admirer l'acteur dans ses œuvres musclées. Peut-être rendront-ils de plaisir ou pas. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Ryan Gosling est assurément l'arme de séduction massive de ce film, de ce pur divertissement qui rend un chouette hommage à tous les héros de l'ombre œuvrant à la magie du cinéma. Télérama avec Marie Sauvion. Le film aurait de toute évidence gagné à être resserré, mais l'époque est trop radine en comédie américaine pour bouder son plaisir. Et enfin, celui qui n'a pas aimé, c'est Lelo Jimmy Battista dans Libération. Débordant de vannes, d'action et de pantalonnades, l'adaptation de la série 80s, L'homme qui tombe à pic, avec Ryan Gosling et Emily Blunt, épuise à trop en faire, sans jamais trouver son axe.
Voilà, ça s'appelle The Fall Guy. C'est proposé par le Colisée, le Méga CGR et le Pathé Quinconce, surtout en VF, mais on peut le voir aussi avec de la 4DX, avec la salle Ice, en Dolby Atmos, etc. etc. C'est un film, un grand spectacle, bien entendu. C'est un véritable hommage au métier de cascadeur et de créateur d'effets spéciaux, mêlant action-aventure et comédie romantique. C'est un film, moi, que je regrette d'avoir vu en VF, parce que je la trouve plutôt médiocre, mais l'immense majorité des gens qui vont voir ce genre de film se fichent complètement de la VO, donc ça s'y explique qu'il y ait très peu de sorties de séances en VO. Mais moi je trouve que les points positifs quand même l'emportent sur les points négatifs. Alors commençons quand même par les points négatifs. Comme désormais très souvent avec ce genre de film, l'intrigue est inutilement compliquée, avec trop de rebondissements, de trahisons, de double jeux de la part de certains des personnages, d'une forme de lassitude qui s'empare du spectateur, enfin de tous les cas de spectateurs comme moi, qui en a un peu marre de voir ce genre de scénario. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de positifs, à commencer par les cascades. Et en cela, le film, alors pour les amateurs du genre, c'est une sorte de best-of à lui tout seul. Les chutes, les explosions, les bastons, les poursuites en automobile, toute la gamme est passée en revue de façon hyper spectaculaire. Et ça, vraiment, c'est, je répète, une sorte de best-of de la cascade. Le film est aussi très intéressant, parce qu'il peut se voir comme donc un making-of de ce genre de film d'action. Et d'ailleurs, à ce propos, restez pendant le long générique de fin, parce que là, vous avez le vrai making-of qui fait office de mise en abyme, et c'est très très intéressant de voir comment ce genre de film est tourné. Le film nous montre comment on fabrique ces films d'action américains aujourd'hui, à partir d'un film prétexte ici, un film prétexte de science-fiction en train de se tourner sous nos yeux. On voit donc, par exemple, l'importance des câbles de soutien des cascadeurs, les fonds bleus qui permettent les incrustations, et puis les astuces utilisées pour donner toutes sortes d'illusions aux spectateurs. Autre atout du film, bien les deux acteurs principaux, et notamment Ryan Gosling, qui fait preuve d'une certaine forme d'autodérision. Le film, c'est vrai, est drôle, vraiment drôle par moments. Et puis il y a Emily Blunt, qui joue la réalisatrice du film, qui permet d'évoquer un petit peu le nouveau rôle des femmes à Hollywood, à qui on confie désormais des films, des blockbusters, des films d'action. Le couple fonctionne sur le principe de la comédie de remariage, car après leur séparation, suite à un incident de tournage sur un précédent film, où tous les deux officier déjà, ben il se retrouve sur ce Metal Storm, c'est le nom de ce film d'action, où après les inévitables chamailleries lors de leur retrouvaille, eh bien ils vont finalement forcément se rabibocher. Donc c'est un film qui alterne donc le prévisible et l'original, malin dans sa mise en abîme, incroyablement spectaculaire et efficace, que les amateurs de films d'action devraient grandement apprécier, mais peut-être un petit poil trop long à cause de son intrigue qui a quand même peu d'intérêt. Je sais que c'est pas le genre de film que va voir Pierre.
Oh non.
Non. Donc ça s'appelle The Fall Guy. C'est au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Et donc dans ces salles-là, il y a de la 4DX au Pathé Quinconce, il y a de la ICE au Méga CGR, il y a de la Dolby Atmos, il y a éventuellement de la VF. Radicalement différent, le film dont on va parler maintenant, c'est Le Tableau Volé. Le Tableau Volé, c'est un film qu'on peut voir uniquement au cinéaste. C'est un film de Pascal Bonitzer. Pascal Bonitzer, c'est un acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste français, né en 1946. Il a commencé par les courts-métrages, et puis ensuite, vous allez voir des films que vous connaissez certainement, peut-être pas. En 96, son premier qui s'appelait Encore, avec Jackie B. Royer et Valérie Abruni-Tedeschi. Mais en 98, Rien sur Robert, avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlin, ça passe de temps en temps à la télévision. 2003, Petite Coupure, avec Daniel Auteuil, Christine Scott-Thomas. 2006, Je pense à vous, avec Édouard Baird et Géraldine Pellas. 2007, Le Grand Alibi, avec Miu Miu, Lambert Wilson, Valérie Abruni. 2012, Chercher Hortense avec Jean-Pierre Bacri, Christine Scott-Thomas. 2015, Tout de suite, Maintenant avec Agathe Bonitzer et Vincent Lacoste. Et 2019, Les Envoûtés avec Sarah Giraudeau et Nicolas Duvauchel. Pierre, parle-nous donc du Tableau Volé.
Durée 1h31 avec Alex Lutz, Léa Drucker et Nora Anzaoui.
Et deux séances par jour au cinéaste.
Le synopsis, André Masson, commissaire priseur dans la célèbre maison de vente Scotties, reçoit un jour un courrier selon lequel une toile d'Egon Schiele aurait été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se rend sur place et doit se rendre à l'évidence. Le tableau est authentique, un chef-d'œuvre disparu depuis 1939, spolié par les nazis. André voit dans cet événement le sommet de sa carrière, mais c'est aussi le début d'un combat qui pourrait la mettre en péril. Heureusement, il va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina et par sa fantasque stagiaire Aurore. La revue de presse, L'Obs avec Sophie Grassin. On retrouve les dialogues en forme de douche écossaise chère aux cinéastes, notamment dans la scène d'ouverture, un modèle du genre. Et puis il y a cette galerie de personnages, ex-femmes, avocates, dont Bonitzer ne divulgue pas tous les secrets, mais qui, chacun à leur manière, servent le film et en majorent l'intérêt. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Pascal Bonitzer s'empare d'une histoire vraie pour dépeindre le monde du marché de l'art, dans un film passionnant, servi par une distribution impeccable. Le Figaro avec Éric Neuhoff. Si on mettait ce tableau volé aux enchères, les mains n'arrêteraient pas de se lever dans la salle. Bonitzer une fois, Bonitzer deux fois, Bonitzer trois fois, adjugé. L'acheteur n'aura pas à regretter son geste. Le Journal du Dimanche avec Barbara Théat. Son élégant récit captive et amuse tout à la fois, malgré ses détours, brillant par son écriture, tant dans les dialogues ciselés que dans la caractérisation des personnages campés par des acteurs épatants. Les Échos, avec Adrien Combeau, un film fluide et élégant, porté tout en ambiguïté par Alex Lutz en redoutable commissaire priseur. Les Inrecuptibles, avec Jean-Baptiste Morin. Le monde de la vente d'objets d'art est décrit avec une mine d'informations fort précise et tout à fait passionnante. Et chaque personnage porte sa part de romanesque, de secret, de folie. Marianne, avec Olivier De Bruyne, dans cette comédie farfelue, Pascal Bolitzer dirige des acteurs motivés, en tête de liste Alex Lutz et Léa Drucker, qui contribuent à la réussite mineure, mais réelle, de ce petit film qui en vaut bien des grands. Et puis celui qui n'a pas aimé, c'est Clément Colliot dans Libération. Pascal Bolitzer tente une satire du marché de l'art, mais le propos social reste superficiel et le film vire au théâtre de boulevard.
Deux séances par jour au cinéaste pour ce tableau volé. Donc c'est autour de l'histoire de la vente d'un tableau disparu d'Egon Schiele, retrouvé par hasard chez une famille à Mulhouse. Et bien Pascal Bolitzer, autour de cette histoire, nous propose une galerie de portraits et de personnages en rapport avec cette vente et les interactions entre ces personnages. Alors, entre autres, parmi ces personnages, il y a bien le jeune garçon ouvrier chez qui est trouvé le tableau, ses copains, sa mère, et puis à l'opposé de l'échelle sociale, eh bien, il y a le petit monde feutré des grandes maisons d'enchères prestigieuses. Ici, elle s'appelle Scotties, mais tout le monde a compris qu'il s'agissait de Christie's et de Sotheby's, par exemple. Donc, c'est un, parmi ces personnages, eh bien, il y a un commissaire priseur, sa fantasque stagiaire, son ex-épouse est toujours complice, et puis quelques autres, voilà. Alors, plus que l'histoire elle-même, ce sont les rapports entre ces personnages qui font l'intérêt du film, avec ces micro-histoires, toutes plus ou moins en lien avec cette vente de tableaux. C'est plaisant, le scénario est bien construit, les acteurs sont parfaits, notamment Alex Lutz, qui est toujours exceptionnel dans ses compositions. Ici, il joue un commissaire priseur pète sec, méprisant. On passe un vrai bon moment, d'autant que le film n'est pas long, hein, 1h30. Il ne connaît pas de baisse de rythme et il nous fait pénétrer dans un monde, dans un milieu peu connu, celui du marché de l'art. Et d'ailleurs, c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, au moins dans le point de départ, l'histoire d'un tableau qui a été retrouvé comme ça, qui était un tableau spolié. Voilà, donc moi je recommande ce tableau volé parce que j'ai quand même largement apprécié ce film qu'on peut voir donc au cinéaste. Petite main cette fois-ci, c'est au... au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Pâté Quinconce et Méga CGR. C'est un film Nessim Chikawi, c'est un réalisateur scénariste français. Il avait réalisé en 2021 Placé avec Julie Depardieu et Philippe Rebaud. Et puis c'est le scénariste des Tuches 2, 3, 4, 5 et d'un film qui s'appelait Le Doudou également, avec Kadmera notamment et Malik Bentala. 1h27 pour ses petites mains avec Corinne Maziero notamment, comme actrice parmi les plus connues dans le film. Il y a aussi Cool Chain. Rien n'avait préparé Eva à l'exigence d'un grand hôtel. En intégrant l'équipe des femmes de chambre, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités, Safietou, Aïssata, Violette et Simone. Entre rire et coup dur, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l'adversité. Lorsqu'un mouvement social bouscule la vie du palace, chacune de ses petites mains se retrouve face à ses choix. Eh bien, curieusement, la presse n'a pas tellement apprécié. C'est ou mitigé ou carrément défavorable. On commence avec Catherine Ball dans Le Parisien, inspirée des mobilisations des femmes de chambre du parc Hayat en 2018, puis de l'Ibis Batignolles à Paris en 2020-2021. L'intrigue sociale reste longtemps secondaire et se mêle de façon un peu artificielle à l'intrigue personnelle. Le long métrage rend cependant un joli hommage aux invisibles des palaces. Isabelle Danel dans L'Obs, on souscrit au sujet et à la verve des actrices, mais un film à peine regardable sur les invisibles, c'est ballot. Barbara Tell, Le Journal du Dimanche, l'histoire est sans surprise et n'évite pas les poncifs, mais les personnages hauts en couleur sont attachants. Dommage qu'ils ne soient pas plus approfondis. L'humanité, Michael Mélinard, comédie sociale poussive, le second long métrage de Nessim Chikawi est plein de bons sentiments, mais manque singulièrement d'imagination. C'est bien l'avis de Olivier De Bruyne dans Marianne. Nessim Chikawi s'inspire d'événements réels dans cette fiction engagée qui, hélas, ressemble la plupart du temps à un sage téléfilm saturé de bons sentiments. Thierry Chasse en première, Nessim Chikawi ne parvient pas cette fois a dépassé le stade des bonnes intentions au fil d'un récit où on ne cesse de penser qu'un documentaire aurait été une forme plus appropriée. Le seul qui a apprécié, c'est Télérama avec Guillaumette Odissino. Le récent combat d'employés d'un palace parisien est ici transposé en fiction rageuse et rieuse sur la solidarité. Corinne Maziero remporte la palme de la tendresse revêche. Je suis étonné parce que moi, je n'ai pas trouvé ce film si mal que ça. Au contraire, moi, je dois dire que j'ai plutôt apprécié ce film. C'est un film social. Moi, j'ai trouvé ça assez réussi. C'est pas vraiment d'ailleurs une comédie. C'est dans l'esprit de ce que peut faire un Ken Loach sur le quotidien des employés des grands palaces parisiens et plus particulièrement ici d'un groupe de femmes de chambre d'origine différente sous la forme d'une chronique. C'est un film qui est très documenté sur les conditions de travail de ces donc petites mains soumises à des cadences intenables d'où de fréquents troubles musculosquelettiques, comme on dit, et qui sont une usure des corps prématurée. Ces femmes sont aussi payées une misère au regard des tarifs pratiqués pour les clients, avec donc ces différences de statut entre les titulaires aussi et les employés par des boîtes de sous-traitance qui sont encore moins bien traitées et bien plus précaires encore. Donc moi, je trouvais que c'est un film intéressant, c'est un film... Je trouvais le ton juste, remarquablement interprété. Alors, avec Corinne Maziero, là, je suis pas du tout un fan de Corinne Maziero, je déteste Capitaine Marlowe, par exemple. Et elle est excellente dans une sorte de quasiment contre-emploi en femme de ménage âgée, usée, désabusée, mais aimant malgré tout son travail. Mais tout le casting est totalement crédible et complètement convaincant avec, par exemple, Kulchen en militant syndicaliste, mais c'est pas du tout caricatural comme militant syndicaliste. C'est un film plein d'humanité, de tendresse pour ses personnages. C'est inspiré de quelques histoires vraies évoquées dans le générique de fin, donc notamment celle de de l'Ibis des Batignolles ou du Parc Hayat, comme ça a été dit dans une des critiques. Moi, je trouve que c'est un très bon film social, je le répète, sans préchi-précha, sans caricature, qui parle de solidarité dans la lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail. Je suis très surpris de ces critiques qui sont assez négatives. Voilà, donc je recommande Petite Main au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Petite pause musicale avec un titre, on entend dans le film un petit truc en plus. Donc, un petit truc en plus, on va en parler dans 5 minutes. Ce titre, moi, je le connaissais pas du tout. C'est un truc qui s'appelle Clic Clic Pam Pam d'un certain Jans. Et je pense que le film faisant un véritable carton, une surprise vraiment totale, ce titre va devenir lui-même un carton parce qu'on l'entend à plusieurs reprises dans le film. C'est presque un fil rouge dans le film. Et donc, ça s'appelle Clic Clic Pam Pam. C'est Jans. Et c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Je sais pas ce qui se passe. pas, je te reconnais pas. Chaque parfois je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Et ça fait clic.
Clic, clic, pan, pan, Jans, moi j'ai écouté les paroles, c'est presque une ode au harcèlement de rue, enfin presque au harcèlement, enfin bon, peu importe. Une affaire de principe, c'est un film qu'on peut voir au Cinéaste et au Pathé Quinconce. C'est un film réalisé par... Antoine Rimbaud, réalisateur scénariste français, qui avait réalisé un court-métrage en 2017, un film qui m'avait bien plu, moi. Une intime conviction avec Marina Foïs et Olivier Gourmet. Il est aussi scénariste de films comme Sexygénaire ou La Finale, par exemple. La durée du film, 1h35, avec notamment Bully Lanners, Thomas VDB et Céleste Brunkel. Bruxelles 2012, quand le commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain, dans la plus grande opacité, le député européen José Bové et ses assistants parlementaires décident de mener l'enquête. Ils vont alors découvrir un véritable complot menaçant de déstabiliser les instances européennes jusqu'à leur sommet. C'est tiré de faits réels. Caroline Vier, dans 20 minutes, le spectateur se laisse facilement prendre par ce thriller politique qui dévoile les combats impitoyables se déroulant avant les votes sur fond d'alliance et de lobby. Julie Martinon dans Télé 7 jours, divertissante, citoyenne et inattendue, votez donc pour la comédie du printemps. Télérama, inspiré d'un scandale lié au lobby du tabac dans l'UE, un film civique éclairant avec des acteurs de choc. Barbara Théâtre, le journal du dimanche, un thriller de bureau très dense, mais mené tambour battant, qui vulgarise habilement cette affaire complexe dans les coulisses des institutions européennes, aux côtés de Bully Lanners, à qui le rôle va comme un gant. Céleste Brunkel et Thomas VDB jouent leur partition avec justesse. Maroussia Dubreuil dans Le Monde, ce qui aurait pu être un film de paperasse, s'avère un bon film de complot autour du financement des institutions publiques par des intérêts privés. Pascal Vergerot dans West France, inspiré de faits réels, ce thriller d'Antoine Rimbaud est un peu complexe, mais néanmoins haletant grâce à trois acteurs épatants. Olivier de Bruyne dans Marianne, Antoine Rimbaud s'inspire de faits réels dans ce thriller politique qui, malgré sa réalisation somnolente, se regarde sans déplaisir. Principal atout, la prestation de l'excellent Bully Lanners dans la peau de l'eurodéputé moustachu et rebelle. Première, malgré une mise en scène ludique, le film n'échappe cependant pas à la question qui fâche, celle de se demander si un documentaire n'aurait pas été plus adéquat. Nicolas Chaleur dans L'Obs, un film sans allant, à cheval entre le polar bureaucratique et la comédie de pieds nickelés, dont l'approche terre à terre flirte avec les canons télévisuels. L'élogie Batista Télérama, Télérama Libération, malgré les efforts déployés, poursuite dans une gare, suspense autour d'un dossier confidentiel, romance larvée en sous-main, le film a bien du mal à sortir du dispositif très pépère dans lequel il est venu se piéger. Une affaire de principe, c'est au Pathé Quinconce et c'est au cinéaste, avec au cinéaste une à deux séances par jour. Sous la forme d'un thriller politico-juridique, un film qui nous fait pénétrer dans les arcanes profondément obscures des institutions européennes pour qui, comme moi et sans doute l'immense majorité des potentiels spectateurs, comme moi donc, est un profane en la matière, c'est vraiment très 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 confus, très très obscur. Parce que si on comprend les enjeux principaux du film, les détails sont épouvantablement techniques et complexes, ce qui fait qu'on a quand même bien du mal à saisir les détails de l'affaire et les rôles précis des nombreux protagonistes impliqués. Alors grosso modo, il s'agit d'évoquer les agissements du lobby du tabac pour empêcher les institutions européennes de voter des lois contre ses intérêts, et pour cela, quasiment tous les moyens sont bons, complot mené contre un commissaire européen à coups de fausses accusations pour le compromettre, pressions diverses et variées exercées sur des membres influents comme le président de la Commission européenne. Bref, un lobbying intense que va mettre à jour José Bové et deux de ses assistants qui, à force d'obstination et au nom des grands principes dont il est question dans le titre, des grands principes de la démocratie, arriveront à dénoncer en public ces agissements répréhensibles. Le film vaut beaucoup pour son trio d'interprètes et notamment un Bully Lanners qui est parfait, incarnant avec malice José Bové, un José Bové beaucoup moins agité que l'image qu'il a longtemps eue en France, mais ici il est une sorte de chevalier blanc à cheval sur les principes. C'est l'atout principal d'un film par ailleurs trop confus pour un néophyte. Ça parle beaucoup, 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 ça va très très vite, il y a beaucoup de personnages secondaires. Tout cela fait que même averti et concentré, on finit par s'y perdre, par décrocher même. Dommage, mais pouvait-il en être autrement si on voulait être au plus près des faits tels qu'ils se sont passés? Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre.
Ben, je pense d'abord que ce n'est pas du tout une comédie, hein, j'ai entendu dans la revue de presse.
Oui, oui, non, ce n'est
pas vraiment une comédie.
Non, non.
Alors donc, ce film est un véritable casse-tête, selon moi, pour le commun des mortels, car il nous plonge dans les milieux de la politique européenne et dans la première moitié du film. Il faut vraiment bien s'accrocher pour ne rien perdre de l'imbroglio qui concerne nombre de personnalités. Corruption, mensonges, dessous de table, tout y passe et cette histoire prend l'allure d'un thriller policier dont l'enquête est menée par José Bové et ses deux assistants parlementaires. Alors dans la deuxième moitié, les choses s'éclaircissent petit à petit quand même, jusqu'à la fin, donc presque en apothéose. Ce film a le mérite d'être totalement inspiré de faits réels, c'était en 2012 et il faut signaler qu'il a été adapté du livre « Hold up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe » signé José Bové et paru en 2015.
Voilà, ça s'appelle donc Une affaire de principe et c'est proposé par le Pâté Quinconce et le cinéaste. Un petit truc en plus, là c'est Colisée, Pâté Quinconce et Méga CGR. Pour ce film réalisé par Artus. Artus, il est connu comme acteur. Et là, il est réalisateur et scénariste. C'est son premier long métrage. On l'a vu récemment dans des films comme Bernadette, comme 38 degrés 5 et Les Orfèvres, Un homme heureux, Menteur, etc., etc. Apache, voilà. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire sur un petit truc en plus?
Durée 1h39. Avec le réalisateur lui-même Artus et Clovis Cornignac ainsi qu'Alice Belaïdi. Le synopsis: pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. La revue de presse, La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle, l'humoriste et comédien Artus signe une comédie solaire qui croise cavale et vacances de jeunes adultes en situation de handicap mental. Le Figaro, avec Olivier Delcroix, malgré ses quelques maladresses, cette jolie chronique estivale cocasse et chaleureuse vise dans le mille et porte sans mièvrerie son message de tolérance et d'acceptation de la différence. Le Journal du Dimanche, avec Barbara Théat, l'intrigue se révèle sans grande surprise, mais les personnages sont attachants. Une jolie leçon d'humanité et d'humilité. Télé 7 jours, pour son passage à la réalisation, Artus s'empare d'un sujet touchy, le handicap, et fait un sans faute. Le Monde, une comédie généreuse, mais digne des Bisounours, laquelle, passé le choc des cultures, prône une relative égalité des rôles, l'acceptation des différences et la complicité entre les hommes de bonne volonté.
Et Télérama, je rajoute, malgré une formidable troupe de comédiens amateurs, le film n'échappe pas à une lourdeur didactique et naïve, suggérant que les pires crasses des deux voyous devraient être finalement pardonnées au nom de la fraternité. Donc c'est le feel-good movie dans toute sa splendeur, ou toute son horreur, hein, c'est suivant les points de vue, où les critiques et les spectateurs sont un petit peu quand même pris en otage, parce que si le critique dit du mal du film ou émet même des restrictions, il va passer pour un affreux salaud sans cœur, puisqu'il est question d'un groupe d'handicapés mentaux forcément sympathique et touchant, hein, voilà. Donc en effet, c'est l'histoire d'un fils et de son père qui sont en cavale à la suite d'un braquage d'une bijouterie et se retrouvent par un concours de circonstances au milieu d'un groupe de handicapés et de leurs encadrants partis en car une semaine de vacances dans un refuge à la montagne, en colo, quoi, comme on dit. Simplement. Le fils se fait passer pour un handicapé et le père, lui, pour son éducateur, accompagnateur. Tous deux découvrent un monde pour eux inconnu, celui de ces jeunes garçons et filles handicapés. Chacun réduit d'ailleurs à un archétype du début à la fin du film. Par exemple, il y a l'imitateur et fan de Sarkozy, l'admirateur de Dalida, celui qui ne jure que par Cristiano Ronaldo, celui qui passe son temps à débiter des grossièretés. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Celle qui se prend en permanence des trucs dans la figure, celui qui se déguise tout le temps. Voilà. Donc chacun est un archétype en quelque sorte. Les accompagnants ayant aussi chacun leurs caractéristiques. Donc c'est le début d'une aventure, ce petit monde se côtoie dans la joie et la bonne humeur, c'est le début aussi d'une expérience, et dans cette expérience, tout le monde va en être transformé, et donc, il y a bien sûr quelques moments de tension, et puis il y a bien sûr les séquences d'émotions indispensables à ce genre de film, c'est formaté avec un grand F de bout en bout, tout autant cousu de fil blanc dans les situations, dans l'évolution et dans l'histoire des personnages. Évidemment, on sourit, on rit même à l'occasion, parce que tout est fait pour. Artus se taille la part du lion avec son personnage drôle et tendre. Il est aussi l'auteur, le réalisateur du film. Aucune surprise à attendre sur le sujet tarte à la crème, on peut dire, de la différence. Ce film hyper consensuel qui met en avant un groupe d'acteurs handicapés plein de vie, touchant, sans filtre. C'est d'ailleurs pas un film sur les handicapés, c'est un film avec les handicapés. C'est un film fait sans pathos, joyeux, plein de spontanéité, mais prévisible, plein de bons sentiments. C'est pas un reproche, hein, c'est une constatation. Il faut savoir que le film fait un immense carton, puisque premier jour, c'est pratiquement, à part Bienvenue chez les Ch'tis, le record de tous les temps pour un premier jour, pour un premier démarrage. Ça bat par exemple des films comme Intouchables, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il paraît que dans les salles, les gens à la fin applaudissent. Je sens que le film va être un phénomène et va certainement dépasser plusieurs millions de spectateurs. C'est d'autant plus amusant que, à part CGR, les autres grands circuits n'ont pas vraiment misé sur le film. Et je pense que dès la semaine prochaine, il va y avoir à nouveau des séances supplémentaires rajoutées, des copies supplémentaires rajoutées, parce que le film n'a pas un nombre de copies extraordinaire. Mais voilà, donc c'est un film qui risque de devenir un film phénomène dont on va parler. Voilà, ça s'appelle un petit truc en plus. Borderline, ça m'étonnerait que ce soit un film phénomène dont on parle énormément. Mais après tout, nous, on est là pour parler de tous les films. Borderline, c'est un film de Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas. Les deux réalisateurs l'un vénézuélien, Alejandro Rojas, l'autre, je ne sais pas trop, peut-être aussi vénézuélien. C'est leur premier long-métrage, réalisateur, scénariste, tous les deux. 1h17 pour ce film, le titre original, Upon Entry, La Llegada. Bon, ça vous dira rien, 1h17. Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New York, mais à leur arrivée à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D'abord anodine, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu'un piège se referme sur eux. Alessandre Janoviak dans Écran large. Paranoïaque, absurde et tristement réel, Borderline est une petite pépite de suspense impressionnante pour un premier film. Nicolas Scheller dans l'Obs, leur thriller antispectaculaire en huis clos et quasi temps réel, sonne vrai et universel. Olivier Delcroix, Le Figaro, ce film de 77 minutes court, ramassé, va à l'essentiel jusqu'à son final abrupt qui laisse pantelant le spectateur. Première, Borderline parle de l'abus de pouvoir, du racisme ordinaire né de la peur de l'autre, juste parce qu'il est différent, mais sans jamais se faire donneur de leçons, ni tirer en longueur, quitte à déstabiliser par sa fin abrupte un suspense étouffant. Samuel Douer dans Télérama, un exercice de style efficace, interprété avec conviction et d'une brièveté calculée au plus juste pour ne pas lasser. Renaud Baronian, Le Parisien, très intense par moments, bénéficiant de l'interprétation puissante de la comédienne espagnole Bruna Cusi, le film tourne néanmoins un peu en rond et finit par asphyxier le spectateur autant que ses deux malheureux héros. Et bien Pierre a été voir Borderline. Alors qu'en penses-tu, Pierre ?
Alors il faut souligner qu'il n'est pas américain, car la police américaine est plutôt vue cyniquement. Alors je dirais que ce film est court, mais en fait, il semble long en même temps, car se déroulant pratiquement de bout en bout en vase clos. Il s'agit en effet d'un interrogatoire en règle dans un aéroport de New York par la police, dont est victime un couple de migrants espagnols et vénézuéliens. Ce long métrage est stressant, angoissant, et l'on est comme ce couple pressé qu'il se termine, car les questions parfois même très intimes fusent de la part de policiers qui se relaient. une véritable garde à vue à l'américaine, où les deux protagonistes sont soupçonnés de migration illégale. On se demande donc comment tout cela va se terminer, et la fin d'ailleurs est très étonnante. Pour terminer, je vais reprendre une phrase de la bande-annonce. Après ce film, vous ne voyagerez plus comme avant.
Bien, ben moi j'ai très envie d'aller voir Borderline.
Oui,
c'est
oui,
au
c'est
cinéaste, avec 2 séances par jour, je crois. Allez, Pierre, tu vas reconnaître ça, c'est sûr. Forcément, on entend ça dans The Fall Guy. Dès les premières notes, tu vas reconnaître. Même pas.
Si, si, ça me dit quelque chose, mais j'ai un trou. Phil Collins.
Voilà, quand même.
Ah.
Against All Odds, Phil Collins, c'est un titre qu'on entend dans le film The Fall Guy, et c'est Emily Blunt qui est notamment l'interprète dans un karaoké, et donc c'est aussi tiré d'un bande originale du film Contre toute attente.
Ah oui, dans les années 80. Oui.
Exactement. Jusqu'au bout du monde, c'est proposé par les cinéastes, et je crois bien même au Pathé Quinconce, aux cinéastes, c'est que de la VO. Au Pathé Quinconce, ça doit être la VF. Voilà ce que l'on peut dire sur ce film de Viggo Mortensen. Oui, l'acteur Viggo Mortensen, qui est aussi réalisateur et producteur. Il est né en 58, Viggo Mortensen. Il avait réalisé en 2020 Falling avec Lance Erickson et lui-même. Et puis, acteur, on le connaît, par exemple, Les Crimes du Futur, Green Book, La Route, Appaloosa, etc., etc. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, aussi. Allez, Pierre.
Durée 2h09. Le titre original, c'est The Dead Don't Hurt. Avec Vicky Krieps, Viggo Mortensen lui-même et Solly MacLeod. Le synopsis, l'Ouest américain dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigré d'origine danoise, Vivienne Le Coudy, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolf Schiller, le maire corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surtout résister aux avances plus qu'insistantes de Westod, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier, avec Jusqu'au bout de monde, Viggo Mortensen livre un film passionnant qui est aussi une belle histoire d'amour. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech, Viggo Mortensen se fait plaisir en mettant en scène un western dans la plus pure tradition qui parle d'amour, de culpabilité et de vengeance dans des décors magnifiques au diapason des deux interprètes dont l'alchimie crève l'écran. Le Parisien, avec Michel Valentin, dans ce western féministe, Mortensen ne se donne donc pas le beau rôle, mais livre une œuvre de toute beauté, à la fois classique dans sa forme et transgressive sur le fond. Ouest France, avec Pierre Lune, pour sa deuxième réalisation, Viggo Mortensen s'essaie avec réussite au western en posant un regard féministe sur la conquête de l'Ouest, un pied dans la tradition, l'autre dans la modernité. Mais il y a ceux qui n'ont pas aimé aussi. Olivia Cooper, Adjian, dans les cahiers du cinéma. Plutôt que d'épouser l'expérience de son beau personnage féminin, de s'en contenter, Viggo Mortensen la noie dans des détails socio-historiques qui dissolvent toute notion de point de vue. Théorie Beton pour les Inrecuptibles, impression d'un film pour rien, quasi irréprochable dans son costume de mélo historique néo-académique, mais parfaitement stérile. Et enfin, Libération avec Sandra Onana, tentative lourdaude de western féministe, réalisée et interprétée par le sympathique Viggo Mortensen. Jusqu'au bout du monde ne nous veut aucun mal, mais n'est vraiment pas à marquer d'une pierre blanche.
Jusqu'au bout du monde, c'est au Pathé Quinconce et au cinéaste. C'est un western atypique qui se passe donc, un western dans l'Ouest américain, à cheval, si on peut dire, sur l'époque de la guerre de sécession, un peu avant, un peu pendant et un peu après. C'est pas le sujet du film d'ailleurs, la guerre de sécession, c'est juste une toile de fond. Il raconte sous la forme de flashback et de flash-forward, c'est d'ailleurs un petit peu confus au début, dans les premières scènes, censé planter le décor, on y jongle avec les temporalités, au risque d'égarer le spectateur pendant un certain temps. Mais après, ça se remet bien d'équerre. Ça raconte dans l'histoire d'amour entre Holger Olsen, immigrant d'origine danoise, et Vivienne, d'origine canadienne. C'est pour ça qu'elle parle français et qu'il y a des dialogues, certains en français. Depuis leur rencontre jusqu'au décès de cette dernière. C'est une chronique sur la vie quotidienne de ce couple qui s'installe donc dans une ferme isolée, non loin d'une petite ville placée sous la coupe d'un gros propriétaire. Une vie banale jusqu'au moment où Olsen s'engage dans l'armée pour participer à la guerre de sécession, laissant sa femme seule dans sa ferme. Alors moi j'arrête là, mais le synopsis, vous en avez déjà dit beaucoup plus. Hein. Donc voilà, ça n'est qu'au retour de la guerre que certains événements qui se sont produits dans la vie de Vivienne vont avoir des conséquences. Bon, pas grand-chose à dire sur ce film, hein. C'est un film languissant, que les amateurs de western risquent de trouver bien terne, voire ennuyeux, faute de grands enjeux, si c'est de décrire les aléas de la vie ordinaire d'une femme dans l'Ouest, ce qui constitue la vraie originalité d'un genre qui est quand même en général fait la part belle aux hommes. Bon, bref, une histoire d'amour dans le cadre de l'Ouest américain, et puis c'est tout. Parler de western féministe, ça me paraît quand même très abusif. C'est sûr, le personnage principal est une femme, mais alors ça, dans ce cas-là, tous les films où il y a une femme personnage principal sont féministes. Bon, moi, c'est pas vraiment le film que je recommande cette semaine. Jusqu'au bout du monde, c'est au Pathé Quinconce et c'est au cinéaste. Au cinéaste également, Les Fleurs de Bourouti. Les Fleurs de Bourouti, c'est un film de Joao Salavizza et René Nader Messora. Joao Salavizza, réalisateur, scénariste et monteur portugais. René Nader Messora, réalisatrice, productrice, directrice de la photo brésilienne. Ils avaient réalisé auparavant, en 2015, Montana. Et 2018, Le Chant de la Forêt. Le film dure 2h03, il est proposé par les cinéastes. Attention, il n'y a pas de séance tous les jours. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques de l'histoire de son peuple indigène au cœur de la forêt brésilienne. Inlassablement persécutés, mais guidés par leurs rites ancestraux, leur amour de la nature et leur combat pour préserver leur liberté, les Crao, c'est le nom du peuple, n'ont de cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. Florence Colombani, Le Point, en explorant un autre rapport au monde auquel les Kraus sont fidèles. Le film des réalisateurs propose aussi un autre rapport au cinéma, immersif et bouleversant. Michel Levieux dans L'Humanité, superbe film, déclare-t-elle. Jacques Mandelbaum, Le Monde, attention, zone de pleine beauté. Du geste, une fiction partagée avec un peuple amérindien, du paysage, le fragile et luxuriant paradis amazonien, du cinéma, sa fonction primitive de révélateur de monde. Frédéric Strauss dans Télérama, au Brésil, entre fiction villageoise et documentaire sur la violence séculaire, un voyage fascinant chez les Krao, peuple luttant pour sa survie. Xavier Le Harper dans L'Obs, un film d'une grande acuité, porté par une mise en scène évitant misérabilisme ou pittoresque ethnologique. Ludovic Béot, Les Inrecuptibles, l'image 16 mm dépasse dès le prologue le terrain de la pure ethnographie pour nous projeter au cœur d'une expérience sensorielle saisissante. On n'a pas eu envie d'aller voir La Fleur de Bourouti et on n'ira pas pour se rattraper. Mais bon, après tout, il y a des gens qui aiment ce genre de cinéma. Eh bien, il faut aller au cinéaste pour aller voir ce film. Attention, pas tous les jours, il n'y a pas de séance, par exemple, samedi ni mardi. Toujours au cinéaste, je signale la projection du film État Limite, un documentaire de Nicolas Pedizzi. Je vais juste la signaler parce que c'est un film qui est sorti sur Arte il y a quelques semaines et donc il a droit à une sortie cinématographique. C'est un documentaire, je vous donne juste le synopsis. C'est l'hôpital Beaujon à Clichy, au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui ronge l'hôpital public. Jamal Abdelkader, seul psychiatre de l'établissement, s'efforce de rendre à ses patients l'humanité qu'on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade? Voilà, c'est un documentaire, 1h42. C'est proposé au cinéaste. Attention, il n'y a pas de séance tous les jours. Enfin, le dernier film de l'affiche cette semaine, c'est un film d'épouvante horreur, interdit au moins de 12 ans. Ça s'appelle Les Cartes du Mal. Ça dure 1h32 et on peut voir le film au Méga CGR, uniquement Méga CGR. Le film la version originale s'appelle Tarot. Voilà, donc quand une bande d'amis transgresse sans scrupule les règles du tirage du carreau, donc la règle du tirage, c'est suis une seule règle, évite le danger, ne tire jamais des cartes que tu as trouvées. Ouais, moi, je joue pas au tarot, je connais pas le tarot, donc bon. Ces jeunes gens, eh bien, libèrent à leur insu un esprit maléfique piégé dans les cartes maudites. Un par un, ils découvrent le sort qui les attend et se retrouvent dans une course contre la mort pour échapper aux prédictions de leur tirage. C'est interdit moins de 12 ans. La presse, Le Parisien a bien aimé. Les scènes menant à leur trépas s'affichent variées. Quant à l'explication du carnage, elle ne se fait pas inutilement attendre et le tout est rondement mené en 1h30. C'est moins la vie d'écran large. Ça balance des clichés sur les Capricornes et les Verseaux dans toutes les répliques pour en appeler à l'identification du public qui sera content de reconnaître son signe, mais le rapport avec les astres n'est jamais interrogé et le concept de fatalité ou de destin est extrêmement survolé. Nicolas Didier en Télérama, destiné à un public adolescent, ce long métrage empile des séquences de massacres plus paresseuses les unes que les autres. Je sais bien que Pierre n'ira pas voir ça.
Non.
Moi non plus, je ne suis pas allé le voir. Et c'est au cinéma Méga CGR, uniquement au Méga CGR. Voilà, on a réussi à faire toutes les sorties et on va juste vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine. Il n'y a pas d'avant-première, c'est rare, mais pas d'avant-première. La semaine prochaine, ça sera La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Bon, Pierre, non?
J'aime pas trop, non. J'en ai vu aucun de plein.
Moi, je les ai vus et c'est bien fait, hein, franchement.
Attention, il fait 2h25. La bande-annonce, c'est bien, oui.
Voilà. Alors après, dans les films qu'il y aura en sortie le 8 mai, il y a L'Esprit Coubertin, un film sur les Jeux Olympiques, c'est de circonstance. C'est une comédie avec Benjamin Voisin, Emmanuel Berco. Un homme en fuite avec Bastien Bouillon, Léa Drucker. Neuilly-Poissy, avec Max Boublil, Mélanie Bernier et Claudia Tagbo. Ça, c'est trois comédies. Enfin, non, mon fils, c'est pas une comédie, pardon. Après, les autres films, eh bien, un film d'animation proposé par les cinéastes, c'est pas fréquent comme ça en sortie nationale. C'est Super Lion. Bon, pourquoi pas. Comme un lundi, ça, c'est un film japonais, donc peut-être Pierre ira voir. C'est
oui,
un spécialiste asiatique.
Ça a l'air très bizarre, hein, j'ai vu la bande-annonce.
Ah, mais ça dure 1h23.
Oui,
et puis, le film pour les enfants, Blue et compagnie, là, on voit la bande-annonce ad nauseam dans les cinémas. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes, Pierre, cette semaine?
Les deux, pourquoi pas.
Ouais,
une affaire de principe, oui, et Borderline, parce que c'est très court, donc ça passe bien.
Ouais, moi, je ne suis pas fan d'une affaire de principe, mais je recommanderais bien The Fall Guy, pour les gens qui aiment le cinéma d'action. Le tableau volé, petite main, voilà, donc c'est déjà pas mal. Surtout qu'il ne va pas forcément faire beau ce week-end, donc c'est l'occasion d'aller au cinéma. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on devrait se retrouver la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.